จบละSur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission des chômeurs et des précaires.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Voilà, donc ce soir, pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter des bruits de manifestations. C'était la manif des femmes de chambre et des femmes de nettoyage des grands hôtels, je me trompe pas, c'est ça, voilà, à Suresnes. Elles sont restées en grève pendant 6 semaines. On écoute, on en reparle après.
Un message de la part de Jacqueline Fraisse, qui n'a pas pu venir à ce rassemblement compte tenu d'obligations de longue date qu'elle avait. Elle nous soutient depuis le début du conflit, comme les élus du PC de Suresnes, comme d'autres partis. Et donc elle m'a chargé de vous lire ce message. Mesdames, messieurs, chers camarades, des obligations prévues de longue date m'empêchent de participer avec vous à la manifestation organisée aujourd'hui. Le combat courageux que vous menez depuis des semaines, avec les difficultés qu'il implique pour des salariés précaires, percevant de petits salaires, est légitime et doit être salué. J'ai donc tenu à vous adresser un témoignage de mon total soutien. Soyez assurés que je suis de près le déroulement des négociations avec les entreprises du Pont de Suresnes, SNC du Pont de Suresnes, Louvre-Hôtel et Deca France Île-de-France, et reste à vos côtés pour défendre vos revendications. Comme je l'ai écrit au ministre du Travail, Xavier Bertrand, le Code du Travail est le même pour tous et s'applique à tous, y compris aux entreprises de sous-traitance. La rémunération à la tâche est illégale, et les règles édictées dans les conventions collectives doivent être respectées. De même, le groupe Louvre-Hôtel ne saurait se dédouaner de sa responsabilité quand il passe des contrats avec des prestataires qui maltraitent leurs salariés et sont en situation délictueuse au regard de la loi. Ces pratiques sont hélas bien trop répandues dans le secteur hôtelier pour que la direction des hôtels Campanile et Première Classe feigne de l'ignorer. J'ai donc demandé au ministre de convoquer dans les plus brefs délais une table ronde avec tous les partenaires, en particulier les deux directions qui semblent toujours faire la sourde oreille, afin que vos droits soient enfin respectés et le préjudice subi réparé. Je vous souhaite plein succès pour cette initiative et vous invite à solliciter mon aide aussi souvent que vous le jugerez nécessaire. Avec mes meilleurs sentiments, Jacqueline Fraisse.
Nettoyage, esclavage, Louvre-Hôtel, complice. Nettoyage, esclavage, Louvre-Hôtel, complice. Nettoyage, esclavage, Louvre-Hôtel, complice. Nettoyage, esclavage, Louvre-Hôtel, complice.
Dans notre syndicat CGT des hôtels de prestige et économique, s'est battu pour que les femmes de chambre et les gouvernantes de la sous-traitance puissent exercer librement leur choix de voter pour élire des délégués du personnel et leurs membres du comité d'entreprise au sein des hôtels Campanile et Première Classe du Pont de Suresnes. Alors que le patronat, par sa politique d'atomisation de la communauté de travail via la sous-traitance, a gagné en partie la bataille idéologique sur ce terrain visant à diviser pour régner, il n'est pas inutile de rappeler le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et plus particulièrement son 8e alinéa. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Les conditions de travail, c'est pour les délégués du personnel qui, vous le savez, historiquement, ont été créés avant les comités d'entreprise. Et la gestion des entreprises, c'est pour la création des comités d'entreprise. Proposition qui avait été élaborée par le Conseil national de la Résistance. Nous sommes basés également sur une disposition de la loi du 20 août 2008 et nous avons gagné le vote de nos collègues femmes de chambre et gouvernantes au sein des hôtels Campanile et Première Classe de Suresnes et de ce fait nous avons remporté la majorité au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, donc notre syndicat CGT-HPE. On comprendra donc aisément les raisons pour lesquelles on retrouve aujourd'hui, main dans la main, les femmes de chambre et les gouvernantes de la société sous-traitance
sous-traitante d'Eka France IDF, et une partie des salariés de Louvre-Hôtel, dont la totalité de nos élus. Lors de notre dernier congrès du 10 mars 2012, tout à fait récent, le syndicat CGT-HPE a voté le principe de cette grève. On rencontrait l'autre jour un journaliste de France Inter. Demain, le conflit passera dans une émission sur France Inter, demain et après-demain d'ailleurs à 10h50, dans un temps de pochon. Et ce journaliste nous disait, mais c'est pas possible, une grève, ça part, et puis après on se raccroche et on essaye de l'organiser. Mais nous, ça s'est pas fait du tout comme ça. Cette grève, on la prépare depuis 2011, avec ces élections où on a fait voter les salariés de la sous-traitance, et avec notre congrès du 10 mars 2012, où notre syndicat, tous hôtels réunis, et on a aujourd'hui beaucoup de camarades de d'autres hôtels de Louvre-Hôtel, a décidé et a voté le lancement de cette grève, et a décidé et a voté la mise en place d'une caisse de grève pour permettre à nos collègues de tenir dans la durée lors de conflits de ce type qui, on le sait, sont très durs. On a tous en souvenir le conflit des salariés d'Arcade, il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, où pendant un an et demi, les femmes de chambre ont affronté le groupe Accor. Aujourd'hui, on relève le défi, on s'attaque au groupe Louvre-Hôtel, qui est le deuxième groupe hôtelier en France. La légitimité de cette grève est totale. En effet, vous devez savoir que dans cette entreprise, on l'a dit lors du premier rassemblement, Louvre-Hôtel et Deka France sont totalement hors la loi, parce qu'ils se seront revenus au temps des colonies et ils payent les salariés à la tâche. Les femmes de chambre, les gouvernantes, avaient des cadences infernales impossibles à tenir. Résultat, ben on a dans cet hôtel première classe, du travail dissimulé. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui passent 7h, 8h, 9h dans cet hôtel et qui sont payés que 4h ou 5h par ce système de travail à la tâche.
Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais.
Le mail qui nous envoyait ses salariés. La cause est évidente, le directeur sur place est un véritable tyran. Les plannings ne sont affichés seulement qu'une semaine à l'avance et les changements la veille pour le lendemain sont très fréquents. Quand les personnes refusent, ils changent les horaires de travail. Exemple, ceux qui travaillent le soir se voient changer leur planning avec un horaire du petit déjeuner. Cela est un appel au secours. Ça veut dire que je rappelle qu'il s'agit d'un salarié de Nantes. Ça veut dire que qu'on soit à Paris, à Nantes ou ailleurs, dans les hôtels, c'est toujours la même pratique. Je dirais également que de plus en plus des salariés de la sous-traitance de l'hôtellerie viennent voir les syndicats, que ce soit nous, que ce soit le syndicat des hôtels, pour se plaindre des conditions de travail qu'ils te rencontrent, du fait qu'ils sont payés comme vous à la tâche et qu'ils ne se portent plus de travailler des heures entières sans être payés. Votre lutte, si elle aboutit, sera un modèle pour ses salariés et un exemple.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles.
Et là... Bien, vous avez bien sûr reconnu Georges Brassens, hein, voilà. Juste deux mots sur les femmes de chambre des hôtels qui étaient en grève à Suresnes sur 6 semaines. Elles ont quand même gagné, donc la direction donc des hôtels a cédé à la pression. Elles ont gagné donc entre autres une revalorisation de près de 100 € sur leur salaire mensuel, ce qui est quand même pas mal. Et bien sûr, la suppression de leur clause de mobilité, vous savez, parce qu'elles avaient une clause sur la mobilité. Le paiement de 50% de leur jour de grève, c'est quand même un acquis, il faut quand même le noter, parce que souvent, on fait grève et on ne gagne pas toujours. Donc je voulais le noter et je le fais maintenant. Bien, alors donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Mode d'emploi. Louise, qui est de Canal Marche. Bonjour Louise. Hein.
Bonsoir.
Voilà. Également Élodie et Alain d'Autre Monde. Bonjour.
Bonsoir.
Les deux associations sont des associations à but non lucratif, a priori. Mm-hmm. qui sont dans le 20e et qui toutes les deux font de la vidéo, mais dont le public, c'est surtout des gens qui sont les plus démunis et les plus défavorisés. C'est ça ? Je ne me trompe pas trop ?
Tout à fait.
Voilà. Donc moi, je connaissais un peu Canal Marche au départ parce qu'ils avaient suivi les marcheurs, donc les grandes marches des précaires et des chômeurs. Raconte-nous un petit peu là, comment s'est fondée cette structure dans le 20e.
Eh bien, Canal Marche, c'est justement fondé à partir de ça, les marches européennes contre le chômage, contre la précarité, contre les exclusions. C'était le tout premier projet de Canal Marche d'armer ces chômeurs marcheurs de caméras, les initier à la vidéo pour qu'ils puissent eux-mêmes parler de leur situation, de leurs difficultés, de leurs rêves aussi, et de cette lutte, de ces marches, de cette initiative, pouvoir eux-mêmes avoir les outils pour s'exprimer et pas forcément dépendre des médias de masse qui diffusaient l'information peu ou mal le plus souvent. Donc ça, c'était le tout premier projet de Canal Marche.
C'était dans les années 95, 97
95, 97, d'accord. C'est ça. Suite à ça, l'association a décidé de continuer sa route. Donc elle a gardé vraiment pour fondement ces marches européennes contre le chômage et la précarité, d'où le nom de l'association, parfois un peu mystérieux, mais d'où le nom de Canal Marche. Et on a continué, bien sûr avec les chômeurs et précaires, mais avec aussi d'autres types de publics qui étaient aussi et qui sont encore sans voix, les mal logés, les sans-papiers, les sans-abri, les ouvriers employés des industries, des services en grande difficulté, les populations issues de l'immigration ou plus généralement les habitants, habitantes, jeunes des quartiers populaires.
Alors vous êtes dans le 20e, donc toujours dans le 20e aujourd'hui ?
Oui. Toujours à Belleville, oui. Mais avec des projets qui rayonnent sur la région Île-de-France et au-delà quand on peut.
D'accord. Est-ce que le public qui vient vous voir en général, ce sont des publics qui sont simplement des locaux du 20e où il y a un peu de gens partout de Paris
Il y a des gens de partout. On essaie de créer des projets à Belleville parce que c'est là qu'on est basé, mais aussi dans d'autres quartiers populaires d'Île-de-France, là où il peut se passer des luttes, là où il peut y avoir des personnes démunies qui ont des choses à dire. Qui ont envie de s'initier à la vidéo, des associations aussi qui peuvent faire le relais avec nous, des structures ancrées sur le terrain avec lesquelles on peut travailler pour travailler sur beaucoup de territoires en Île-de-France.
Alors le projet à la base, au niveau de l'image, hein, j'entends bien, c'était bien de donner une information par l'image différente de celle qui était reçue en général par les télévisions classiques.
C'est ça. C'est de participer à une expression et à une visibilité des sans-voix et de leur lutte. Donc à la fois ouvrir une fenêtre d'expression pour ces personnes, faire entendre un message qui est peu écouté aujourd'hui, les valoriser aussi de ce fait, et puis participer aussi à une éducation à l'image, puisque tous nos ateliers commencent par une initiation à la vidéo pour que les participants soient devant et derrière la caméra. D'accord. Et comprennent ainsi comment se fabrique un film et développent ainsi un esprit critique aussi face aux médias et comprennent le fonctionnement de l'audiovisuel qui est de plus en plus présent dans nos quotidiens.
Donc il y a un principe de compréhension d'image, de la lecture de l'image,
etc. D'éducation populaire.
D'accord. Et donc là, vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir aujourd'hui. Vous rayonnez sur combien de personnes en moyenne
On a plusieurs projets par an, qui soient directement avec des habitants des quartiers populaires. Je dirais qu'on touche une trentaine de personnes par an.
Oui.
Donc évidemment chaque année ça tourne. On préfère faire des ateliers en petit nombre pour vraiment travailler ensemble, construire ensemble le projet. Et arriver à la réalisation d'un film collectif. Mais ces dernières années, on touche, en plus de ce public, de ces habitants des quartiers populaires, par ces ateliers de réalisation auxquels on tient beaucoup, on travaille aussi maintenant avec les associations des quartiers populaires qui sont très en demande de pratiques vidéo, qui sont ancrées sur les territoires avec des pratiques socioculturelles déjà très fortes, mais qui sont en demande d'initiation à l'audiovisuel et qui donc se tournent vers nous pour se former. D'où une nouvelle activité pour Canal Marche depuis 2009, l'Université Populaire Audiovisuelle, l'UPOPA. Et au travers de cette UPOPA, ce sont plusieurs dizaines d'associations d'Île-de-France qui se sont initiées à la vidéo avec nous dans un vrai objectif de les rendre indépendantes dans leur pratique audiovisuelle par la suite, et puis qu'on passe comme ça le relais d'une pratique vidéo et qu'à leur tour elles organisent des ateliers avec les habitants de leur quartier. D'où notre partenariat avec Autre Monde.
D'accord. Alors l'UPOPA, c'est l'université populaire, hein, donc via l'image. Donc c'est un petit peu le principe d'échange de savoir, de compétences, de formation, etc. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui là où vous êtes ou alors c'est un projet simplement encore
Non, ça fonctionne très très bien.
D'accord.
C'est plusieurs dizaines d'associations qui sont formées depuis 2009.
Ah oui, d'accord.
Donc qui ont réalisé déjà des films avec nous pour se former, puisque quand on parle d'éducation populaire, c'est pas seulement une formation théorique, mais c'est très vite mettre en pratique. Donc déjà réaliser des courts-métrages associatifs. Donc cette UPOPA a déjà produit plusieurs dizaines de films et a produit même ces derniers mois des messages d'habitants des quartiers populaires. Puisque l'UPOPA proposait cette année aux associations de se former à la cabine vidéo d'expression libre, une forme de réalisation un petit peu particulière qui pourrait se résumer avec le comparatif du vidéomaton, en fait.
Oui.
Un dispositif très simple où on invite les habitants à venir s'exprimer, donner un message, un coup de gueule, un coup de cœur, un rêve, un poème, une chanson, voilà, ce qui les touche. Et donc on a initié les associations désireuses de se former à la vidéo, à ce dispositif, et on a monté avec elles des cabines vidéo d'expression libre dans les quartiers populaires d'Île-de-France, et on a récolté comme ça 100 messages d'habitants des quartiers populaires.
Super ça.
Ouais. Ah oui.
Mais le souci c'est que faites-vous de ces images après alors?
Alors justement, il faut évidemment pas qu'elles dorment,
et
il faut les partager, et puisque notre objectif c'est quand même la visibilité de ces populations, donc bien sûr il faut les partager. Nous, chaque projet débouche sur un film qui donne évidemment lieu à un DVD qui est mis en ligne sur Internet, qui donne lieu aussi à une projection publique. Et puis, dès qu'on peut, on organise des expositions vidéo pour valoriser d'autant plus ce travail. Et c'est justement le cas la semaine prochaine, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat avec la Maison des Métallos qui va nous accueillir du 9 au 13 mai. Donc à partir de mercredi prochain, pour présenter ces 100 messages d'habitants des quartiers populaires.
On parlera après de ce qui se passe la semaine prochaine, parce que justement c'est pour appeler les gens à y aller, pour donner leur message. Moi ce que j'aimerais entendre, c'est, je veux dire, tu es dans cette association depuis combien de temps
Moi j'y suis depuis 3 ans.
D'accord. Et qu'en as-tu appris en fait depuis que tu y es alors? Dis-moi un peu. La question
piège. Énormément, parce que.
Non, parce que je pose la question.
Ce qui est passionnant à Canal Marche, c'est ce croisement entre le militantisme et la pratique artistique.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui fait pour moi l'originalité de ce collectif, c'est qu'il y a un vrai projet politique l'expression, la visibilité des sans voix, c'est un objectif très fort, et il y a cet outil vidéo qui sert cet objectif et qui est chaque fois réinventé pour travailler avec des personnes en précarité.
D'accord. Est-ce que c'est, ça devient un peu un outil de combat, la vidéo?
Bien sûr.
C'est ça. Donc
bien sûr.
C'est bien comme ça, il faut le comprendre.
C'est bien
vous,
comme
alors.
Ça, quand D'accord. je dis militantisme et lutte, c'est bien comme ça, ouais. Ouais.
Très bien. Alors, je reviendrai sur toi tout à l'heure, excuse-moi. Mm-hmm. Voilà. Dis-moi, Autre Monde, c'est un peu le même genre d'association, un peu plus grande, hein, en termes de quantité d'individus qui y travaillent, a priori en tant que bénévoles et salariés. Vous êtes à peu près 200 bénévoles, une quinzaine de salariés, c'est ça, hein?
8-10 salariés, ouais.
8-10 salariés. Et vous êtes pas loin de Canal Marche, en termes de, au niveau des rues, tout ça, de distance,
juste à côté,
dans le 20e, hein, au de la Mare. Alors, raconte-moi un peu l'histoire de cette association au départ et comment elle a évolué.
Alors, cette association, elle est née en 94, donc dans l'idée de lutter contre l'exclusion et la précarité. Donc l'idée au départ c'était de favoriser l'engagement des jeunes sans forcément que ce soit basé sur les compétences ou les qualifications.
D'accord.
Donc l'association s'est organisée autour de deux pôles, un qui est lié à la migration et un qui est lié à la précarité. Donc dans la migration, c'est des ateliers linguistiques qui ont lieu dans les foyers de travailleurs migrants à Paris. Et la précarité, il y a différentes actions, il y a un camion, enfin plusieurs fois par semaine à certains endroits de la ville, des maraudes. Et toutes les activités, en fait, sont toujours dans l'idée, non pas d'être dans quelque chose qui serait juste du don avec des bénéficiaires d'une action, mais qui soit justement dans le lien social et le partage de quelque chose. Et transversalement à tout ça, il y a un pôle à l'intérieur de l'association qui s'appelle le pôle culturel.
Dont tu t'occupes, a priori.
Enfin dont je suis bénévole. Je suis bénévole dans l'association, donc j'en fais partie, voilà.
D'accord.
Et donc, ce pôle culturel, il y a plusieurs activités dans la semaine. Donc, il y a un atelier photo, un atelier vidéo, donc j'en parlerai après. Diverses activités, des soirées culinaires, des sorties. Et l'idée du pôle, en fait, existe vraiment parce qu'il y a les deux autres pôles, en fait. L'idée, c'est d'être transversal entre tout. Et de faire en sorte que les gens fassent ensemble et se rencontrent, en fait, voilà, parce que dans les ateliers culturels, par exemple, il y a les publics aussi bien du camion ou de l'accueil de jour que des ateliers linguistiques, que les bénévoles, que des habitants du quartier qui seraient intéressés par les ateliers. Donc tous ces publics se rencontrent alors qu'ils ne se rencontrent pas forcément d'habitude. Et voilà, et le moment des ateliers culturels et des sorties, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose ensemble. Et voilà.
Donc vous êtes un peu le lien social entre l'association, les habitants entre eux, et voilà.
Voilà, c'est ça l'idée, ouais.
Alors moi, on va reparler de tout et de rien, enfin surtout de tout, hein, dans ce cadre-là. Donc vous avez des ateliers sociaux-linguistiques, et je vais, 2 minutes si ça ne dérange pas, m'arrêter là-dessus, parce que c'est la première chose qui m'a choqué en regardant votre site sur Internet, c'est qu'effectivement, vous avez des ateliers sociaux-linguistiques faits par des bénévoles. A priori, c'était pas marqué, indiqué dans le truc, donc on peut soumettre l'idée qu'ils n'étaient pas automatiquement formés dans le métier de la formation sociolinguistique.
Oui.
Et donc, déjà, ça m'a un petit peu fait bizarre, un petit peu de voir ça. Donc, je me suis dit, parce qu'on peut considérer d'une façon générale qu'on est formé par des formateurs qui ont des compétences dans le domaine, etc. Et là, c'est pas le cas. Donc, comment est venue l'idée de justement faire de la formation de communication, on va dire, en langage français, avec des gens qui ne sont pas de France, ou un peu?
Alors, l'idée des ateliers sociolinguistiques tels qu'ils sont faits à Autre Monde, c'est que ce ne soit pas justement seulement des cours de français, mais que ça prenne en compte la personne en entier, en fait. Alors, ça, la méthode des ASL, ça passe par tout ce qui est espace du quotidien, espace administratif, etc. Après, dans les ASL à Autre Monde, en fait, chaque bénévole n'a pas forcément des compétences linguistiques. C'est même pas du tout ce qu'on demande à un bénévole Autre Monde. C'est vraiment juste sa volonté de s'engager qui prime. Et du coup, chacun y apporte aussi, soit ses compétences, ses compétences perso autres que FLE ou Alpha. Mmh. Et l'idée des ASL à Autre Monde, c'est que ça se fasse dans un échange, en fait, avec les apprenants, comme on appelle les participants aux ASL. Donc que ce soit dans un échange, c'est-à-dire que ça parte de leurs besoins à eux et pas juste d'une méthode préétablie, préconçue avant qu'on appliquerait sur eux, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'eux, de leurs besoins et d'être dans cet échange-là.
Et donc ces ateliers de sociolinguistique, c'est en fait de la conversation, c'est ça, c'est ou de leur besoin de communiquer ou...
Alors c'est un mélange de plein de choses, parce qu'il y a aussi, ils ont aussi beaucoup un désir, par exemple, de savoir lire, écrire, parce que beaucoup n'ont pas forcément été scolarisés avant. Donc voilà, il y a ce désir-là, donc on passe par là aussi. On passe par beaucoup de choses qui sont des supports du quotidien, en fait. Ça va être des journaux, des choses qu'on va retrouver dans le quotidien. Ça peut passer aussi par expliquer comment faire telle démarche. Et voilà. Et après, je pense qu'au cœur des ASL, il y a quand même beaucoup cette idée de lien social. Parce que les personnes, là, c'est les bénévoles qui vont dans les foyers, en fait, de travailleurs migrants.
Oui, ah, d'accord.
Là où d'habitude, pas grand monde ne va, en tout cas.
Oui, ça, c'est important de savoir.
Voilà. Et du coup, c'est les bénévoles qui font ce pas vers les foyers. Et
comment est l'accueil dans ces foyers, justement, quand vous arrivez en tant que bénévole d'autres mondes? Bien, ça se passe
très bien.
Voilà.
Se passe très bien. En fait, il y a plusieurs.
Ils ne sont pas tous terroristes, en fait. C'est ça que c'est.
Ah non, absolument pas.
C'est une plaisanterie.
Non, okay. Justement, voilà, l'idée, c'est que après, dans les ASL, les bénévoles proposent aussi ce qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, les bénévoles travaillent en binôme et ensuite en petite équipe de 6, en fait, puisque il y a plusieurs niveaux, plusieurs ateliers par semaine, par niveau. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais les bénévoles, ensuite, peuvent tout à fait proposer des sorties, par exemple, avec les apprenants, faire d'autres choses en dehors du foyer et partager des moments ensemble qui soient pas juste autour de l'apprentissage de la langue, mais que soient vraiment autour de créer un groupe ensemble, en fait.
D'accord. Alors, il y a, donc, juste par rapport, pour compléter ce que tu viens de dire sur les ateliers sociolinguistiques, en 2010, donc, j'ai lu votre rapport très vite, pas dans le détail non plus, j'avais pas beaucoup de temps devant moi, Donc, j'ai vu qu'il y avait effectivement 120 apprenants. Donc, vous avez réussi à avoir 120, on va dire, stagiaires ou élèves apprenants. Donc, c'est 3 cours par semaine en 2010.
Ouais.
Il y avait donc 86 formateurs bénévoles, ce qui est pas mal. Il y a une mobilisation importante. Donc, il faut le noter parce qu'on est souvent avec l'époque de la politisation à outrance chez les grands. On pense que les petits, ils bougent pas beaucoup. C'est pas vrai, la preuve. 54 ateliers, donc il y a eu 54 ateliers comme sociolinguistiques, donc de menés en 2010. Je pense qu'en 2011 et 2012, ça a été pareil.
Oui, c'est à peu près les mêmes chiffres. D'accord. En fait, on est sur 5 foyers de travailleurs migrants dans le 20e et dans le 13e.
Dans le 20e et dans le 13e, d'accord.
Voilà. Et dans chaque foyer, en fait, il y a 2 ou 3 niveaux et à chaque fois 3 ateliers par semaine par niveau.
Et les niveaux, c'est quoi les niveaux? Ça correspond à quoi?
Alors, les niveaux, c'est.
C'est des migrants qui viennent d'arriver depuis un mois, ça, après c'est 3 mois.
Alors, il y a un peu de tout, en fait. Ouais. Nous, on les répartit par niveau de manière assez basique, débutant, intermédiaire, avancé. Et à l'intérieur de ça, en fait, on fait des espèces de tests de positionnement au début de l'année pour essayer d'évaluer un peu, de répartir quand même par niveau. Et après, c'est très varié. Moi, j'ai commencé en tant que dans un niveau intermédiaire où là, c'était vraiment très mixte. Il y avait des gens qui étaient là depuis pas longtemps, des gens qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps, mais voilà, qui maîtrisaient pas trop. Là, par exemple, cette année, je suis bénévole en niveau avancé. Donc la plupart, bon, c'est ceux que j'ai rencontrés quand j'étais là au début, mais ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Et ils ont déjà... En avancé, ils ont souvent déjà... Ils maîtrisent déjà un peu l'écrit, ils parlent assez bien, etc. Mais dans les niveaux débutants, il y a vraiment des gens qui sont tout à fait vraiment débutants en français, pour le coup.
D'accord. Voilà. Écoute, je te propose d'écouter une petite chanson, si Claude est prêt, pour nous envoyer une petite chanson, et on reprend la parole par la suite. Merci. Alors, ce n'était pas Bella Chiquita ni Bella Chicha, bien que les femmes sont belles, sauf Madame Thatcher, comme dit Renaud. Mais c'était bien Bella Ciao, hein, des fanfares qui s'indignent du DAL. Voilà, donc merci à eux de nous avoir prêté leur musique. Donc, on va reprendre cette émission. Donc... Ah, c'est, oui, c'est Claude qui l'a faite. Bah, c'est notre technicien. Voilà, merci Claude. 1er mai, voilà. Ok, Claude, allez, technique. Voilà. Très bien, donc on va reprendre cette émission. C'est. Voilà. Nous étions donc avec les associations Canal Marche et puis Autre Monde. Hein, nous reprenons cette émission, donc c'est Mode d'emploi sur fréquence pas à période 106.3 FM. Un numéro de téléphone 0140 05 06 10. 0140 05 06 10. Et si vous voulez écouter cette émission sur le net, c'est www.mode-d-emploi.net. Suis-je clair ? Merci beaucoup, Claude. Je plaisante. Voilà, donc on va reprendre l'émission avec Alain. Bonjour Alain.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Donc toi, tu es en fait un utilisateur de l'association Autre Monde et tu as fait, deux ateliers, vidéo et photo, c'est ça ?
Photo, c'est depuis le 12 novembre 1997.
D'accord, donc c'était, voilà, je suis très informé a priori, merci.
Okay. Avec quelques interludes.
Alors dis-moi juste comment tu as connu cette association et pourquoi tu y es resté un petit peu ?
En fait, j'ai habité rue Le Buat dans le 20e. Qui juxte l'hôpital Tenon et l'ancienne cafétéria de l'autre monde. C'était justement, c'était prêté par l'hôpital Tenon à côté de métro Pelleport. Si vous voyez, aujourd'hui c'est démoli. Voilà. Et bon, un jour, comme ça, un dimanche, j'ai poussé la porte. Ils m'ont dit qu'il y a un atelier photo. J'aime beaucoup la photographie. Et... voilà, je suis allé, je suis resté, l'atmosphère était super bonne. À l'époque, c'était Franck, qui était oui. Le chef d'atelier photo. Voilà, encore, j'ai un prospectus en face, le magasin Lunel, le premier appareil photo à 12 000 francs numérique. Quoi. Vous voyez l'époque, d'accord. On va dire, il y a 14 ans et la monnaie.
D'accord. Donc, tu y allais pour faire une animation, donc un atelier d'animation, en fait.
En fait, j'étais consommateur.
Tu étais consommateur, mais voilà. Tu n'étais pas précaire, ni chômeur, ni tu travaillais, en fait, à l'époque.
Un peu de tout. Un peu de tout. Un débrouillard. Et voilà. Ouais, d'accord. J'étais jamais un vrai SDF, mais bon, j'étais pas non plus nanti.
D'accord. Donc tu as trouvé chez eux une je sais pas de gentillesse, mais en fait une famille quelque part un peu.
Un accueil assez convivial. L'atelier photo, il était très bon ouais. Avec Franck. Je me souviens, bien sûr, c'était que d'argentique. 1997, 98, après les années, voilà, le siècle dernier. ça a duré une époque, voilà, jusqu'à 2003. Après, je me suis absenté. J'ai repris en 2004 jusqu'à 2007. Et voilà, en 2011, je suis revenu.
Alors pourquoi être revenu alors que apparemment tu étais parti
parce qu'un ami, Frédéric Schwarzbauer, m'a dit tiens, ce soir il y a un atelier, on recommence. Bon, allez, on va voir. Il y aura toujours l'argentique parce que on n'était pas très efficace. Je me souviens, on faisait une bonne photo et demie par séance. Et encore, je suis peut-être trop gentil. Et bon, là, définitivement, à la fin de 2011, on a basculé dans le numérique. Voilà. Et donc, là, il y a beaucoup plus de résultats.
T'as senti tout de suite le progrès.
Oui. Voilà. Et j'étais vraiment 99% pour numérique, quoi. Dès le début, j'ai dit, je touche plus à argentique en 2011.
D'accord, très bien. Ok. Merci Alain, je reviendrai après sur toi. Donc, on va revenir juste deux secondes, s'il te plaît. Voilà. Elodie, sur le apparemment, il y a une. Je disais hors micro qu'on n'allait pas en parler, mais juste deux secondes sur une permanence juridique apparemment qui s'est arrêtée et qui est en train d'être remise en œuvre, c'est ça. Donc c'est une permanence juridique pour des gens qui sont en train de divorcer. C'est pour les chômeurs qui cherchent à savoir comment se défendre.
Alors en fait, au départ de l'association, il y avait aussi la volonté d'insertion et d'accès au droit. Donc les deux pôles s'appelaient ELID et ASLAD. Donc dans les deux, il y a l'accès au droit. Donc pour les du côté des migrants, il y a de l'information. Il y avait une permanence juridique qui était liée à l'information pour tout ce qui est démarches administratives et pareil de la même façon pour les précaires en fait, parce que souvent les bénévoles, enfin souvent c'est des questions qui reviennent en fait, parce qu'un lien se crée avec les gens en mission. les bénévoles n'ont pas forcément les réponses aux questions que les accueillis apprenants se posent, enfin ou leur posent en tout cas. Et du coup, c'était nécessaire aussi de finalement d'avoir cette possibilité d'un vrai point d'accueil.
D'être informé juridiquement sur les droits et d'accueil et devoirs, d'accord, très bien. Et pourquoi ça s'est arrêté et maintenant ça nous met en œuvre ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors ça, c'est pas forcément une volonté de l'association. C'est plutôt des fois il n'y a pas forcément toujours les bénévoles nécessaires pour encadrer les choses, voilà.
Et là, on demandait également aux bénévoles d'avoir une formation juridique ou c'était simplement parce qu'ils avaient, envie de ils étaient étudiants en droit et puis ils avaient envie.
Non, mais c'est toujours pareil en fait. À Autre Monde, c'est vraiment pas la qualification première qui compte, quoi. D'accord. Donc c'était sur les deux. Ça peut être des gens qui ont cette formation au départ et qui veulent la partager, et après ça peut être aussi des bénévoles qui finalement parce que ça les intéresse. Voilà, vont se former auprès des autres. Enfin, c'est toujours un échange entre tout le monde et qui fait qu'au bout du compte, après, on peut le transmettre à d'autres.
D'accord. Alors, juste une chose, c'est parce que moi, quand j'étais voir sur votre site, alors je sais que c'est peut-être pas un sujet qui est facile à traiter. Moi, quand je vois sur le site et que je vois qu'il y a quand même 257 bénévoles et que vous quand même vous brassez en termes de subventions une somme assez importante, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir si les bénévoles n'ont pas envie aussi qu'on leur donne, je dis pas automatiquement un salaire, mais l'équivalent de tickets restaurant pour pouvoir manger midi quand ils font du bénévolat chez Autre Monde, pour pas en plus dépenser de l'argent pour manger midi, etc., etc. C'est-à-dire un petit pécule, je sais pas si c'est à calculer ou pas à calculer, mais ou alors c'est vraiment du militantisme, on y va parce qu'on y croit, et puis on est chrétien ou pas chrétien, on est temps de gauche.
Oui, alors dans l'association, il n'y a aucune confession politique ni religieuse. Enfin, en tout cas, pas au niveau de l'association. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, l'engagement, il se fait de manière très individuelle. Les gens qui s'engagent dans l'association Notre Monde le font justement pas sur leurs compétences professionnelles de départ. La volonté d'engagement, bon, c'est aussi quelque chose de très individuel qui se joue très différemment pour chacun. Mais au niveau des missions, je pense que si on commence à parler de rémunérer les bénévoles, je pense que ça peut...
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se poser la question de savoir qui tient les ficelles et où va l'argent. C'est simplement
d'accord.
Ça.
D'accord. Que... Alors, l'argent, il va dans le fonctionnement de l'association, dans les missions, dans la formation des bénévoles aussi, parce que du coup, l'association propose quand même des formations aux bénévoles pour qu'ils se sentent mieux en mission, pour qu'ils puissent aussi valoriser leurs compétences acquises en bénévolat finalement après. Et par contre, quand c'est le moment des missions, par exemple, je ne sais pas si ceux qui font le camion, donc c'est un camion qui se déplace, enfin qui va dans un lieu de Paris où les gens...
Ça, c'est les maraudes, c'est ça, ce que s'appelle les maraudes.
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a les maraudes, donc les maraudes, c'est des petites équipes de 2-3 personnes qui suivent un trajet et qui vont voir les personnes très isolées dans la rue.
À pied,
voilà.
D'accord.
Et le camion, en fait, donc c'est le camion qui part d'Autre Monde avec des thermos de café, qui se pose à un endroit, donc par exemple la gare du Nord. Et là, donc ils proposent le café, mais pas dans une idée de don de quelque chose, mais seulement comme un prétexte pour que les gens aillent vers eux. Et du coup, donc pour en revenir à la question des repas, tout ça, l'équipe de bénévoles du camion, par exemple, se retrouve avant à Autre Monde, mange ensemble aux frais d'Autre Monde, on va dire.
D'accord. Quand même.
Et part en mission. C'est pas genre chacun avec son petit centre. Enfin, je sais pas. C'est un moment de partage aussi pour les bénévoles. Et voilà, mais.
Oui, je comprends bien. Non, je posais la question parce que les auditeurs peuvent très bien se la poser. Donc, je te la posais parce que moi, j'ai fait pas mal de bénévolat et s'est trouvé que je me souviens une journée entière de bénévolat c'est Secours Populaire Français, voilà, je vais me retrouver. J'étais collecteur de fonds pour le Secours Populaire Français et il y avait toute une journée, donc j'ai passé 10 heures dans le froid et la grêle pour faire une animation extérieure. Il y avait un petit chapiteau quand même, hein. Et il y avait des mecs qui chantaient. Et pour le midi, c'est juste une anecdote comme ça pour rigoler, hein. Le midi, je m'attendais quand même qu'on m'apporte un sandwich ou qu'on me propose d'aller manger un sandwich à leurs frais. Et ben non, j'étais obligé d'acheter mon sandwich comme tous les autres, en fait.
C'est un vrai souci, mais alors par contre, à Autre Monde, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je suis pas du tout salarié d'Autre Monde, hein, donc je suis bénévole depuis 3 ans à Autre Monde. Et là, il faut savoir qu'à Autre Monde, l'association, elle est pas. En fait, c'est les bénévoles qui font l'association parce que c'est eux qui font le CA et l'association est dirigée par le CA, en fait. Donc, du coup, c'est les bénévoles qui peuvent être aussi partie prenante des décisions, qui peuvent être élus pour. Voilà. Donc, finalement, c'est aussi les bénévoles qui finalement dirigent l'association.
D'accord.
Et voilà, et en mission, peu importe le niveau d'engagement, même si on n'est pas élu ou je sais pas quoi, les bénévoles sont très très bien traités à Autre Monde.
Bon, mettez-moi le fouet tout
voilà.
de suite.
Voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, parce
oui,
que le bénévolat.
Parce que bon, tout travail mérite un salaire, donc a priori, non, j'entends bien. Très bien. Alors, juste deux mots, si je peux me permettre, Elodie, je te taquine un peu là, ce soir.
Pas de problème.
Mais tu débrouilles très bien, hein, pas de souci. Juste deux mots sur, effectivement, il y a donc une braderie de la solidarité qui se fait également. Et j'aimerais bien que tu me dises deux mots, si tu as des idées, sur. En fait, on va pas de culture du tout ce soir, mine de rien, sur le Mali. Parce qu'apparemment, il y a des choses qui se font au Mali, donc je ne sais pas trop. Donc,
Oui, il y a alors, moi, je ne connais pas très bien les détails de tout ça, mais il y a un. Voilà, il y a un pôle au Mali en fait, donc relié directement avec Autre Monde. Avec bon, après l'idée c'est que, enfin c'est un centre. Enfin, je sais pas très bien en parler, donc je préfère pas trop m'étendre. Bon, mais l'idée c'est quand même que après eux aussi acquièrent leur indépendance en fait. Voilà.
D'accord. Oui. Alors tu peux juste me dire par rapport à la bride de la solidarité, c'est un truc qui marche bien, c'est qui donne les affaires et qui les vend et c'est pour qui alors?
Alors, la braderie de la solidarité, c'est une action qui a lieu chaque année, qui représente. Je vais retrouver les chiffres. Alors, c'est chaque année en décembre, il y a 5000 visiteurs en fait sur un week-end. C'est des marques en fait, c'est l'association qui démarche plein de marques, des grandes marques de vêtements ou moins grandes marques de vêtements d'ailleurs, qui font don en fait de vêtements et d'accessoires. Qui après tout est étiqueté et des prix sont fixés dessus par les bénévoles de l'association. Et ensuite, sur un week-end, ça représente 180 bénévoles, en fait, qui sont là, qui s'en occupent de la braderie, de vendre. Enfin, c'est ouvert à tout public. Et ça représente 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez considérable pour l'association.
D'accord.
Parce que, du coup, les fonds propres de l'association représentent 20% en fait, des fonds. Et ce qui est assez important aussi pour une certaine forme d'indépendance, je pense.
Non, mais non, c'est important de faire de. Non, mais tout est dans cette association. Moi, mais c'est merveilleux. Moi, j'y vais tout de suite. Hein, c'est une association, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais c'est ça qui. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur le fait d'être payé en tant que bénévole. Enfin, pas être payé en tant que bénévole, mais la question du fait d'être. En tout cas, qu'on nous donne quelque chose pour au moins manger le midi quand on fait du bénévolat dans la journée, tu vois.
Mais ça, c'est un minimum, mais c'est quelque chose qui est fait à Autre Monde. Ouais. Ce qui n'est sûrement pas fait dans toutes les associations qui exploitent leurs bénévoles. Mais...
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a. En regardant ton site, le site d'Autre Monde, oui, bien sûr. Même le tien d'ailleurs, Canal Marche, c'est pareil, j'ai eu l'impression que c'était trop beau pour être vrai quelque part, parce qu'il y a tellement d'activités, il y a tellement d'argent, vous agissez dans tous les sens. Mais en même temps, c'est bien. C'est-à-dire que vous faites comme d'autres associations, genre Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, Croix-Rouge, et d'autres. Vous êtes un peu dans la même optique, a priori, en tout cas sur les histoires de camions qui se déplacent pour aller voir les plus démunis. Donc ça, c'est marrant. Mais bon, je suis pas sceptique, a priori. Hein, parce que moi, je suis du même bord que vous, a priori. Mais en regardant comme ça, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas un peu de la publicité et que derrière, il y a autre chose? Dis-moi.
Non. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Parce que moi, je pense que finalement...
Une merveilleuse aventure.
Parce que je pense que finalement, ce qui se passe à Autre Monde, qui, bon, représente quand même des gros chiffres et tout, mais finalement, à l'échelle de tout ce qu'il y a à faire, c'est pas grand-chose.
C'est clair. Donc, a priori, ce sera à l'État de faire ce genre de choses, en fait. Mais donc,
c'est des positions, mais... C'est sûr que là, il y a tellement de manques à combler que forcément, finalement, l'action d'Autre Monde, c'est qu'une toute petite goutte, enfin, selon moi, mais qui est super importante. Mais moi, la raison pour laquelle je me suis engagée à Autre Monde et j'y suis encore, etc., c'était justement c'est pas juste un engagement ou juste donner du temps pour quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est que il y a une vraie volonté d'égalité en fait, de participation des publics qui soient pas juste des bénéficiaires d'une action, mais qu'il y ait une vraie égalité, un vrai échange entre les gens. Et c'est pour ça que par exemple à Autre Monde, depuis l'année dernière, on a changé les statuts de l'association pour que les membres qui votent soient pas seulement les bénévoles de l'association, mais puissent être aussi en fait les publics accueillis en accueil de jour, ou les migrants qui viennent aux ateliers sociolinguistiques, et du coup qui puissent aussi finalement participer à la vie de l'association. Et enfin, pour moi, ça participe aussi à une citoyenneté finalement qu'il n'aurait pas toujours accordée dans le quotidien.
Non, mais moi, je te promets une chose, c'est que j'aurai tous les deux vous voir. Enfin, au Canal Marche, je connais déjà, parce que j'ai été voir pour la caméra, enfin, pour d'autres choses, hein, c'est en micro. Mais j'irai vous voir avec plaisir et puis voir un peu ce que vous faites de l'intérieur. Pas de souci. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation, Élodie.
Merci. Voilà.
Alain, tu as quelque chose à dire sur ce qui vient d'être dit? Tu continues à aller à Autre Monde pour participer à ces activités, c'est ça?
Oui, l'atelier photo avec Pablo, le chef, sinon avec Élodie et Marion, vidéo depuis 2-3 mois.
D'accord, très bien. Bah, écoute, je te souhaite bonne chance et puis tu reviens quand tu veux dans cette émission, si tu as des choses à nous dire ou pas.
D'accord, ah, si pas vous voulez, je vous donne mes coordonnées, vous vous rappelez.
Ça marche.
06 14 30.
C'est pour ça. Hors micro. Donc, je reviens juste à toi, Louise, parce qu'en fait, il se passe quelque chose cette semaine, enfin là, au mois de mai.
Ouais, la semaine
bientôt,
prochaine.
La semaine prochaine, c'est ça. Mmh. Dis-moi un petit peu ce qui s'y passe et tu donneras l'adresse également de l'association. Pour que les gens puissent s'y rendre.
Bien sûr, bien sûr. Alors, donc l'Université Populaire Audiovisuelle a commencé depuis 2009 et se poursuit la semaine prochaine à la Maison des Métallos avec à nouveau des ateliers d'initiation à la réalisation, une cabine vidéo d'expression libre et une installation, une exposition qui présente nos travaux, nos réalisations avec nos partenaires associatifs de ces dernières années et en particulier les 100 messages d'habitants des quartiers populaires récoltés cette année dans les quartiers qu'on a visités avec notre cabine de mois en mois, voilà, jusqu'à avoir 100 messages, qu'on présentera donc à partir de mercredi 18h30.
Donc c'est le 13, c'est ça, c'est le 13.
Alors,
c'est
mercredi 9.
9, pardon, excuse-moi.
Mercredi, on sera le 9, 18h30, oui. Séance inaugurale.
Oui.
Et puis l'expo sera ouverte jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toute la journée, avec évidemment l'exposition ouverte, la cabine vidéo, d'expression libre où chacun pourra venir donner son message, son coup de gueule, ses rêves. Messages qui seront retransmis dès que possible sur des écrans dans le dispositif. Donc un processus complètement participatif. Et puis des temps de débat, d'échange, des rencontres sur les utopies alternatives audiovisuelles, sur comment on passe de la parole populaire aux actes artistiques avec la vidéo et avec d'autres pratiques artistiques. On va rencontrer des gens du théâtre, de la musique. Voilà, comment on va aborder toutes ces questions-là. Et notamment, on aime bien croiser les pratiques artistiques à Canal Marche. Et du coup, on organise une grande soirée le samedi 12 autour du slam et du rap.
Oui.
Un débat autour de l'expression quartier populaire, parce que je l'ai beaucoup prononcé depuis le début de cette émission. Et finalement, c'est une expression complexe derrière laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Alors on a envie d'interroger cette expression et de proposer à des rappeurs, à des slameurs de venir nous dire ce qu'ils en pensent. Et le public aussi qui sera évidemment le bienvenu pour prendre la parole.
Alors, juste pour nous rappeler, c'est quoi l'adresse
Alors, l'adresse de la Maison des Métallos, c'est 94 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e,
d'accord.
Métro Couronne.
D'accord. Donc, à partir de mercredi
De mercredi 9 jusqu'au dimanche 13.
D'accord. Ben, on souhaite à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent d'y aller de ce pas dès maintenant.
On vous attend. On vous attend.
En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à mon appel.
Merci, Gilles.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonsoir, Alain. Donc cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir écoutée. Merci à vous de l'avoir faite. Bisous aux filles et poignées de bons garçons. Ciao. Ah oui, attaque la semaine prochaine, bien sûr. Merci, Claude.